Le Seigneur a placé devant nous, aujourd'hui, comme sujet de l'étude, la tsunamite, un épisode qui est placé au milieu de l'histoire du peuple d'Israël. Nous lirons donc dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 37. Et un jour, il arriva qu'Élisée passa par Sunem, et il y avait là une femme riche, et elle le retint pour manger le pain. Et il se trouva que, chaque fois qu'il passait, il se retirait là pour manger le pain. Et elle dit à son mari, « Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. Faisons, je te prie, une petite chambre haute en maçonnerie, et mettons-y pour lui un lit, et une table, et un siège, et un chandelier. Et il arrivera que, quand il viendra chez nous, il se retirera là. Or un jour, il arriva qu'il vint là, et qu'il se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géasi, son jeune homme, « Appelle cette tsunamite. » Et il l'appela. Et elle se tint devant lui, et il dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, voici, tu as montré pour nous tout cet empressement. Qu'y a-t-il à faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Et elle dit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Qu'y a-t-il donc à faire pour elle ?» Et Géasi dit, « Eh bien, elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Et Élisée dit, « Appelle-la. » Et il l'appela, et elle se tint dans la porte. Et il lui dit, « À cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. » Et la femme conçut et enfanta un fils à cette même époque, quand son terme fut là, comme Élisée lui avait dit. Et l'enfant grandit. Et il arriva qu'un jour, il sortit vers son père, vers les moissonneurs. Et il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit au serviteur, « Porte-le à sa mère !» Et il l'emporta et l'amena à sa mère. Et il resta sur ses genoux jusqu'à midi et mourut. Et elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Et elle ferma la porte sur lui et sortit. Et elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes hommes et une des ânesses, et je courrai jusqu'à l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Et elle dit, « Tout va bien. » Et elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune homme, « Mène-la et marche. Ne t'arrête pas dans la course à moins que je ne te le dise. » Et elle s'en alla, et vint vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Et il arriva que, quand l'homme de Dieu la vit de loin, il dit à Géasi, son jeune homme, « Voici cette tsunamite. Cours maintenant, je te prie, à sa rencontre, et dis-lui, tout va-t-il bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Et elle dit, « Bien. » Et elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne, et elle le saisit par les pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser, et l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas déclarée. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et il dit à Géasi, « Saint-Hérin, et prends mon bâton en ta main, et va-t'en. Si tu trouves quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Et tu mettras mon bâton sur le visage du jeune garçon. » Et la mère du jeune garçon dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et il se leva et s'en alla après elle. Et Géasi les devança, et il mit le bâton sur le visage du jeune garçon, mais il n'y eut pas de voix, pas de signe d'attention. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, et lui rapporta disant, « Le jeune garçon ne s'est pas réveillé. » Et Élisée entra dans la maison, Et voici, le jeune garçon était mort, couché sur son lit. Et il entra et ferma la porte sur eux deux et supplia l'Éternel. Et il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche et ses yeux sur ses yeux et ses mains sur ses mains et se courba sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Et il se retirait et allait par la maison, tantôt ici, tantôt là. Et il montait et se courbait sur lui. Et le jeune garçon éternua par 7 fois, et le jeune garçon ouvrit ses yeux. Et Élisée appela Géasi et lui dit, « Appelle cette Tsunamite. » Et il l'appela, et elle vint vers lui. Et il dit, « Prends ton fils. » Elle vint et tomba à ses pieds, et se prosterna en terre. Et elle prit son fils et sortit. Nous lirons encore dans le chapitre 8, deuxième épisode où nous voyons la Tsunamite, chapitre 8, du verset 1er au verset 6. Et Élisée parla à la femme, au fils de laquelle il avait rendu la vie, disant, « Lève-toi et va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras séjourner, car l'Éternel a appelé la famine, et même elle viendra sur le pays pour 7 ans. » Et la femme se leva, et fit selon la parole de l'homme de Dieu, et s'en alla, elle et sa maison, et séjourna au pays des Philistins 7 ans. Et il arriva, au bout de 7 ans, que la femme s'en revint du pays des Philistins. Et elle sortit pour crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et le roi parlait à Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, disant, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et il arriva que, tandis qu'il racontait au roi comment il avait rendu la vie à un mort, voici la femme, au fils de laquelle il avait rendu la vie, vint crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et Géasi dit, « Au roi, mon seigneur, c'est ici la femme, et c'est ici son fils auquel Élisée a rendu la vie. » Et le roi interrogea la femme, et elle lui raconta tout. Et le roi lui donna un eunuque, disant, « Rends-lui tout ce qui lui appartient, et tout le revenu des champs, depuis le jour où elle a quitté le pays, jusqu'à maintenant. » On pourrait être étonné de ce que Dieu place dans sa parole, cet épisode d'une femme au milieu du peuple. C'est une place qu'elle-même a reconnue. J'habite au milieu de mon peuple. Au milieu de toute l'histoire des rois d'Israël et de Juda dans ces deux livres des rois. De nos jours, on appellerait cela un fait divers. Mais si Dieu l'a consigné dans sa parole, c'est qu'il avait quelque chose à nous apprendre. C'est qu'il a quelque chose à nous dire pour notre instruction, notre enseignement, pour affermir aussi notre foi. Le prophète Élisée a succédé, comme chacun le sait, au prophète Élie. Et nous voyons que Élisée était serviteur. Il était serviteur, il versait l'eau sur les mains du prophète Élie. C'est comme cela qu'il était connu. Et le ministère d'Élisée, au début, lorsque Élie l'a appelé, il lui avait jeté son manteau sur les épaules. Et Élisée était certainement un homme énergique, car il labourait avec 12 paires de bœufs. Labourer avec une charrue en conduisant 12 paires de bœufs, c'était certainement un homme énergique. Eh bien, cette énergie qui lui avait été donnée, elle va servir plus tard au service de l'Éternel. Il est appelé, et la Tsunamite le reconnaît, c'est un saint homme de Dieu. Élie l'appelle, il jette son manteau sur ses épaules et Élisée le suit. Ils vont ensemble un certain chemin et le ministère d'Élisée commence au moment où Élie, ainsi que tout le monde le sait, a été enlevé au ciel dans un char de feu. Nous savons qu'Élie était avec un caractère de prophète de jugement. Et en image, en figure, le passage du Jourdain par Élie et Élisée nous parle de mort. Le Jourdain est toujours le fleuve de la mort. Ce passage nous parle de mort et en image nous parle de la mort du Seigneur. Ensuite, Élie est enlevé au ciel. Élisée le voit et il reçoit un deuxième manteau. Il a donc ainsi une double part de l'esprit qui était sur Élie, sur lui-même. Et ensuite, Élisée revient. Il repasse le Jourdain, image de la résurrection. Et ce n'est qu'après la mort et la résurrection, image de la mort et de la résurrection du Seigneur, que la grâce de Dieu a pu se déployer dans toute sa mesure. Et c'est ainsi que Élisée, alors, est un prophète de grâce. Et nous le voyons dans le peuple ayant été, étant rejeté, le peuple étant déjà mis de côté, pas rejeté, mais mis de côté, nous voyons qu'à ce moment-là, le prophète Élisée, prophète de grâce, serviteur de Dieu, se tourne vers les pauvres du pays et s'occupe de ceux qui ont des besoins. Il s'occupe des pauvres. La Tsunamite n'était pas une femme pauvre. Elle était riche au contraire. Mais elle avait des besoins profonds dans son cœur. Elle voulait, elle aurait désiré un fils et son mari était vieux. Nous verrons comment tout cela s'est passé, nous étudierons cela. La Tsunamite reconnaît sa position, elle est au milieu de ce peuple. Au milieu de ce peuple coupable qui a rejeté l'Éternel pour servir des idoles. Et cela depuis le début, ce sont les 10 tribus d'Israël, et dès le début, les rois d'Israël ont été des idolâtres et ont conduit le peuple dans l'idolâtrie. Eh bien, cette femme reconnaît qu'elle est là, au milieu, elle habite au milieu de ce peuple idolâtre. Mais elle est une image en cela, comme d'autres types qui nous sont présentés au cours du ministère d'Élisée. Elle est une image du résidu qui, au milieu du peuple idolâtre, garde sa confiance en Dieu, sa foi, et continue à honorer Dieu, l'Éternel. Et si du grand public elle n'est pas connue, l'Éternel, lui, la connaît. Il connaît ses besoins, et c'est la raison pour laquelle Élisée passera chez elle. Et Élisée lui donnera ce dont elle a besoin. Nous avons donc dans ces deux anecdotes, ces deux épisodes, nous avons donc un récit historique qui a eu lieu, effectivement. Nous avons aussi un récit, une portée prophétique, nous vraisemblablement nous en parlerons. Nous avons également un exemple qui nous permet de constater qu'à travers toutes les économies, à travers tous les temps, ceux qui sont fidèles et ceux qui placent leur confiance en Dieu ne sont jamais déçus. La Tsunamite ici, d'autres au cours du ministère du prophète Élisée feront cette expérience et nous voyons que Dieu répond toujours aux prières des siens. Et ce sera l'aspect pratique que nous pourrons tirer pour nous. Élie et Élisée sont deux prophètes d'Israël. Ils s'adressent directement au peuple d'Israël, et la grâce manifestée par Élisée ici sera la grâce qui sera déployée vis-à-vis du peuple dans un temps futur, mais ici, nous pouvons, en constatant la grâce et la délivrance et les ressources divines, en tirer des applications pour nous à l'époque à laquelle nous sommes arrivés.
Toujours dans le but d'introduire ce beau passage, nous pourrions faire une remarque quant au plan de cette lecture du chapitre 4. Nous voyons trois appels, en fait. Dans le verset 12, nous avons le premier appel. La Tsunamite va être appelée trois fois devant le prophète Élisée. Verset 12 appelle cette Tsunamite, sa foi va être mise à l'épreuve. Verset 15, un autre appel, appelle-la. Et là, elle va apprendre que Dieu est celui qui vivifie, qui donne la vie, ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Et en fait, ensuite, un troisième appel dans le verset 36, appelle cette Tsunamite. Et là, elle va en effet apprendre que Dieu est un Dieu de résurrection. Élisée lui remet son fils ressuscité. C'est en somme tous les cycles de la vie chrétienne. Nous commençons par comprendre que nous sommes morts dans nos péchés, puis nous avons la vie, nous recevons la vie éternelle. Nous comprenons que Christ est ressuscité, plus il nous a ressuscité ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alors il ne nous manque rien si nous sommes dans cette position heureuse. Il nous manque une seule chose, entrer en possession de notre héritage, un héritage qui nous est conservé dans les cieux, immarcessible, et c'est ce que nous trouvons dans le chapitre 8 en figure, lorsque la Tsunamite reçoit l'héritage qu'elle avait perdu. Une chose aussi, il est assez rare de voir une personne riche héritée de bénédictions. Et cette histoire est un peu exceptionnelle. Nous voyons plutôt les riches comme des personnes éloignées de Dieu dans les Écritures. Et elle est avec Zachée et Joseph d'Arimathée, certainement plutôt une exception. Alors, elle va recevoir le prophète. Et d'abord simplement pour des repas, puis ensuite pour des séjours un peu plus prolongés, puisqu'elle aura fait construire une chambre haute pour lui. Et c'est une remarque que nous pouvons faire aussi au début de ces moments. Elle est douée, cette femme pieuse. Elle est douée de discernement spirituel. Elle reconnaît que c'est un saint homme de Dieu. C'est important, cela. Mais nous pouvons bien nous demander pourquoi et comment elle reconnaît que c'est un saint homme de Dieu. On pourrait penser, mais alors, Élisée a fait quelques miracles extraordinaires devant elle. Et en fait, nous voyons bien qu'il n'a pas fait de miracle jusque-là devant la Tsunamite. Alors, sur quoi elle s'est basée pour dire « c'est un saint homme de Dieu » C'est une expression rare dans les Écritures. On trouve beaucoup d'hommes de Dieu. On trouve cet homme de Dieu nommé dans l'Ancien Testament, quatre noms nommés. Puis dans le Nouveau Testament, Timothée aussi est un homme de Dieu. Élisée lui-même est appelé très souvent homme de Dieu. Mais c'est particulier, cette expression. Un saint homme de Dieu. Alors elle a dû se baser sur une chose simplement. Elle observait cet homme, sa manière de vivre tout simplement, de se vêtir, de parler, ses manières, en somme son mode de vie. Elle regardait et elle pouvait voir quelqu'un qui ne vivait pas comme les autres vivaient, qui ne parlait pas comme les autres parlaient. Et ces choses-là peuvent bien nous interroger. Est-ce que dans le lieu où nous travaillons, on pourrait faire la même remarque sur nous? Vivons-nous d'une manière différente des autres? Ou parlons-nous très exactement le même langage qu'eux? De sorte qu'on ne peut plus nous reconnaître. Un saint homme de Dieu, quelqu'un, en somme, qui est séparé du mal, séparé du monde, et de ce fait, quelqu'un qui, comme Joseph, en somme, comme Daniel, peut recevoir des communications divines et les transmettre ensuite à la tsunamité à d'autres. Nous nous interrogeons parfois pourquoi nous recevons si peu de communications divines, pourquoi nous sommes si peu utilisés par le Seigneur. N'avons-nous pas là la réponse? Il était un saint homme de Dieu, il vivait dans la séparation, savait ce qu'était la sainteté pratique. Alors, cette tsunamite a donc ce discernement, et aussi cette tsunamite a une grande soif, un grand désir. Dans un temps de ruine, car nous sommes dans un temps de ruine, nous avons un mauvais roi qui règne, c'est Joram, nous le connaissons par d'autres passages des Écritures. Le peuple est dans un pauvre état, on le voit déjà au temps d'Élie, en fait, il n'est pas revenu à la loi. Eh bien, dans ce temps de ruine, la tsunamite va bénéficier de la ressource par excellence, la parole de Dieu. Puissions-nous le comprendre, nous aussi, c'est la ressource pour les jours difficiles que la parole du Christ habite en vous richement, souhaitait l'apôtre pour les Colossiens.
Voyons ici que le tsunamite exerce l'hospitalité envers le prophète. Et là ressort pour nous l'instruction pratique. Dans les épîtres, il est fait souvent mention de l'hospitalité. Et devons nous appliquer à exercer l'hospitalité. Ici, la tsunamite a invité le prophète. Elle a reconnu son caractère d'homme de Dieu. Faites du bien à tous, nous recommande la parole, mais surtout à la maison de la foi. Il n'est pas question de faire entrer le monde dans nos maisons, d'imiter les coutumes du monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, recommande l'Écriture. Et ici, la tsunamite, connaissant le caractère de l'homme de Dieu, va construire la chambre haute dans laquelle elle mettra un lit, un siège, une table et un chandelier. Ah, mes amis, sommes interpellés par ce que nous avons là. Est-ce que le Seigneur Jésus a-t-il sa place dans nos cœurs, dans nos maisons? La première place devrait avoir cette place centrale. Et un lit, mes amis, c'est pour se reposer. La table nous parle de communion. Le siège pour s'asseoir et le chandelier, mes amis, pour éclairer la maison. Ah, si le Seigneur a sa place dans nos maisons, il pourra se reposer. Nous pourrons avoir communion avec lui. Il désire s'asseoir à notre table et il désire nous donner l'intelligence, le discernement. Nous pourrons avoir ce discernement que si nous le laissons parler, comme à l'instar de Marie de Béthanie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Nous faisons remarquer cela, mes amis, le lit, le siège, la table, le chandelier, que ces choses, mes amis, ce qui était nécessaire, tout juste nécessaire pour le prophète. Nous avons la modicité, si j'ose dire, de cette chambre haute, mais toute suffisante pour le prophète, tout ce qu'il fallait. Et nous verrons, mes amis, que le prophète n'est pas en reste, comme le Seigneur ne sera pas en reste. Si nous lui donnons, si nous lui faisons quelque joie, il nous rendra au centuple la coupe pressée et secouée et qui débordera. Mes amis, laissons la place au Seigneur, la place qui lui revient. Donnons-lui toute la place dans nos cœurs, dans nos maisons, dans notre vie. Choisissez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous nous adressons aux plus jeunes. Et tout le reste nous sera donné par-dessus.
Ce qui nous est mentionné en premier lieu de cette femme riche, c'est qu'elle exerçait l'hospitalité. Nous allons pouvoir parler de sa foi. C'est la foi de cette femme qui est donnée en exemple. Et cette écriture est là sous nos yeux pour nous apprendre ce qu'est la foi d'une femme dans les circonstances les plus éprouvantes. Eh bien, elle a commencé par montrer sa foi dans ces œuvres-là, dans l'hospitalité. Elle ne connaissait pas l'homme qui passait. Elle a appris à le connaître. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. » À leur insu. Cette femme, à son insu, logeait le porteur de la parole de Dieu en ce temps-là, le grand prophète de l'Éternel, celui qui, en Israël, prenait cette place donnée par Dieu alors que la royauté était défaillante, alors que le peuple était dans la misère, alors qu'il n'avait pas voulu choisir le côté où il voulait se trouver. Comme Élisée lui avait dit à ce peuple, ce pauvre peuple d'Israël, « Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le, et si c'est Baal, servez-le. » Mais il faut choisir, il faut choisir. Et ce peuple malheureux avait choisi le mauvais côté. Mais, alors qu'Élie pensait être seul, il y avait 7000 genoux qui n'avaient pas, qui ne s'étaient pas fléchis devant Baal, 7000 bouches qui ne l'avaient pas baisé. Et cette femme, certainement, faisait partie de ces 7000 méconnu d'Élie peut-être, mais bien connu de l'Éternel. Elle est là comme exemple de foi dans un Israël en ruine. Et cette foi brille d'autant mieux, d'autant plus, d'une façon d'autant plus évidente qu'elle se brille au milieu des ténèbres de ce temps-là. Cette femme donc est là comme seule dans cette maison. Son mari ne paraît pas. C'est d'elle que le récit nous entretient. C'est elle qui retient l'homme de Dieu pour manger le pain. Le mari n'a pas la foi de sa femme. Nous ne savons pas où il en était. Certainement, c'était un homme religieux. Il peut parler de religion plus loin, mais c'est un homme qui n'a pas, comme chef de famille, la foi qui convient. C'est la femme, alors, qui prend cette place dans la famille pour montrer que Dieu habite dans cette maison, parce que cette femme est là pour le représenter comme la servante de l'Éternel. Elle est là pour, somme toute, prendre une certaine initiative vis-à-vis du mari pour non seulement retenir cet homme de Dieu qui passe, mais pour aussi lui construire cette chambre haute. Tout cela est à l'initiative de cette femme de foi. Et cela peut aussi nous enseigner cette leçon que dans des familles où le chef de famille n'est pas à la hauteur de ce que Dieu voudrait qu'il soit, même si c'est un croyant, il y a quelquefois la foi d'une femme qui peut mener en avant et se manifester. La femme doit, dans l'ordre de choses normales, suivre son mari, et dans l'ordre administratif de la maison, bien entendu, elle n'est qu'une aide. Mais dans la foi, elle peut devancer son mari. À la table du Seigneur, elle peut devancer son mari quelquefois. Nous en avons des exemples encore récents. Et c'est une bénédiction que Dieu puisse ainsi permettre à certaines épouses de franchir ce cap difficile, de passer devant le mari et de montrer que la foi est ferme et que la fidélité est là. Ce sont des leçons que nous avons à apprendre.
Avant d'aller un peu plus loin, une remarque semble s'imposer. Cette femme habitait un petit village, Sunem, qui est situé à quelques kilomètres d'une ville que nous connaissons davantage et qui s'appelle Jisréel. Cette femme habitait ce village qui était inclus dans la part qui avait été donnée à Issachar. Et Issachar, nous le savons, faisait partie de ces 10 tribus qui, entraînées par Roboam, étaient infidèles, et laquelle infidélité n'a cessé d'ailleurs de se répéter de roi en roi jusqu'à la fin, à la déportation que subit donc ce royaume d'Israël, en contraste avec les deux autres tribus de Juda et de Benjamin, dont le centre était Jérusalem. Il est curieux de voir que la parole relève des détails. Une simple personne dans un petit village. Cette femme avait donc remarqué que dans ce village passait un homme qui, au fur et à mesure de ses connaissances et de ses relations avec celui-ci, avait fini par distinguer que, comme on l'a remarqué, qu'il s'agissait d'un saint homme de Dieu. Et ainsi que nous venons de l'entendre, un des caractères les plus frappants de cette femme, c'est sa foi. Et c'est précisément cet exemple que la parole tient dans une façon tout à fait particulière, individuelle, à nous signaler. Cette femme, donc, dans son village, avait vraisemblablement un bon témoignage. Témoignage de la foi, de cette foi qui va être démontrée au fur et à mesure que nous avancerons dans l'étude de ce qui a été lu. Eh bien, chers amis, que cet exemple, que ce témoignage rendu par cette femme dans ce petit village puisse aussi être pour nous un encouragement, afin que dans le village où nous habitons aujourd'hui, que dans le quartier où nous nous trouvons dans nos villes, que dans l'immeuble où nous nous logeons, il puisse y avoir aussi cette lumière au milieu des ténèbres et ce témoignage individuel que le Seigneur attend de nous.
On a dit tout à l'heure que cette femme était une femme riche. Le terme qui est utilisé pour riche se retrouve deux autres fois dans l'Ancien Testament. Et il veut dire à la fois riche et de notoriété, c'est-à-dire quelqu'un de connu, quelqu'un qui a une position. Cette femme était non seulement riche, mais elle avait une position dans son village, de par son mari peut-être, mais elle était connue. La deuxième personne dont il est question avec ce même terme, c'est Nabal. Nabal était un homme riche, 1 Samuel 25. Et c'est un homme qui était mauvais de cœur, un fou, un insensé. Il ne voulait pas exercer l'hospitalité envers ceux qui l'avaient reçu, envers ceux qui avaient fait du bien envers lui. Le troisième, je crois que c'est dans 2 Samuel 19, c'est Barzillaï. Voilà un homme qui avait reçu David quand David, titre Christ, était en fuite. Et quand David revient, il lui dit, Barzillaï, viens avec moi. Et là, il est rappelé que c'était un homme de notoriété, un homme riche, fort riche. Et finalement, il met en avant sa vieillesse. Il met en avant son grand âge pour ne pas aller, pour ne pas suivre l'invitation d'un David qui lui demande d'aller à la cour. Ces trois exemples montrent bien les différents caractères que peuvent avoir des gens qui ont une position et qui sont riches. Complètement négatifs, ou alors aimant le Seigneur, mais ne voulant pas tout lâcher pour être avec lui. Et puis cette femme-là qui c'est que toutes les ressources, et ses seules ressources, sont dans le prophète. La deuxième chose, on vient de rappeler que cette femme était en Issacar. Elle était de la tribu d'Issacar. Bon, un mot sur Élisée. Élisée est un homme qui a beaucoup voyagé. On le voit au Jourdain, Bethel, de l'autre côté du Jourdain, à Jéricho. On le voit aller jusqu'au Carmel, il semble qu'il résidait soit au Carmel, soit la montagne du Carmel, soit à Samarie, parce qu'il est dit qu'il habitait à Samarie. Il habitait à Jéricho aussi. Puis on le voit un peu plus loin, un jour il fait un grand trajet qui l'emmène jusqu'à Damas, qui était à environ 150 kilomètres de Jisréel. Il semble que sur le reste de son parcours usuel, c'était le Carmel, qui est à peu près à 30 kilomètres, pas très loin de Sunem, et puis il descendait à Samarie, à Samarie, et puis il allait descendait jusqu'à Bethel, et plus loin encore jusqu'au Jéricho. Ce trajet était d'environ 100 kilomètres, et cette femme voyait donc Élisée qui passait et repassait par cet endroit-là. Un mot aussi sur l'âge d'Élisée. Pourrions tendance à penser qu'Élisée était un homme âgé. Je ne dis pas que ce n'était pas un homme qui avait déjà un certain âge. Mais après la mort de Joram, il y a encore deux rois qui ont vu Élisée, et même le troisième. Donc Élisée a encore vécu après la fin de l'épisode, après la mort de Joram, c'est-à-dire même après les 7 ans. Élisée a encore vécu 40 à 50 ans. C'est donc dire que Élisée n'était pas un vieil homme. C'était un homme qui avait discerné dans un homme relativement jeune que c'était un homme de Dieu. Maintenant, je voudrais dire un mot sur Issacar, simplement. Issacar, on dit ici qu'elle habite au milieu de son peuple. Et on a dit que son peuple était un peuple qui était idolâtre. Et puis, elle représente, dans Issacar aussi, elle représente le résidu. Alors d'Issacar, il nous en est parlé deux fois. Il nous est parlé d'une manière spéciale. Il nous en parlait en Genèse 49. Il nous en est parlé quant à la bénédiction, les bénédictions de la prophétie plutôt de Jacob au sujet de ses fils. Et il est dit, Issacar est un âne ossu, couché entre deux parcs, il voit que le repos est bon, remarquerons que Sunem veut dire double repos,
repos est bon et que le pays est agréable, et il incline son épaule pour porter et s'assujettit aux tribus du serviteur. Après Issachar, il n'y a plus que Dan, et Dan est le serpent. Et Jacob, dans sa vision prophétique, voit ce que sont devenus ses fils, ce que deviennent ses tribus, ce que devient son peuple. C'est-à-dire, il abandonne complètement l'Éternel. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'un secours. Il dit, après avoir passé ses premières tribus, après Dan, quand il voit que Dan, type de l'Antichrist, il dit, j'ai attendu ton salut, ô Éternel. J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Mais alors, Issachar, nous voyons, c'est juste avant le déclin et l'apostasie complète. Et on peut dire qu'elle habitait au milieu d'un tel peuple. Un peuple qui était un âne ossu, couché entre deux parcs. On a dit tout à l'heure, hésiterez-vous d'un côté ou de l'autre? Il faut marquer, on dit que c'est un peuple idolâtre. C'est un peuple idolâtre, mais il y avait eu un retour extérieur du temps d'Élie. Et ce retour est par la grâce de Dieu, extérieurement, il reste. Joram appelle à un moment donné ce roi qui a vécu 12 ans, qui était un fils d'Akab, mais qui a quand même démoli. Il faisait moins de mal que ceux qui l'avaient précédé. Il a démoli la chair, et puis, ou en tout cas l'image de Baal. Il appelait à un moment donné, on le voit, il appelle Élisée, mon père, mon père. Et ici, il a eu 5 ou 6 rencontres avec Élisée. Et il a fait l'objet de miracles qu'il a vécu de la part de Dieu. Mais c'était un incrédule. Mais pour dire qu'il y avait quand même une certaine religiosité extérieure, on ne parlait plus des Baals, on parlait de l'Éternel. Ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi il y ajoute, si la tête d'Élisée reste encore sur sa tête demain. Voilà. Le nom de l'Éternel était appliqué et on l'utilisait. Mais le repos est bon. Et le pays est agréable. On hésite des côtés. On est entre deux parcs. Il incline son épaule pour porter et s'assujettit aux tribus du serviteur. Je ne vais pas plus loin. Nous savons ce que ça veut dire. C'est le tribut du péché. Et nous retrouvons dans les caractères d'Issachar, à ce moment-là, nous retrouvons les caractères de la Sunamite. Deutéronome 33. Ce sont les... Et de Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon en ta sortie, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples à la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance des mers et les trésors cachés du sable. Dans la bénédiction dont Moïse bénit les tribus auparavant, tout parle de Christ, et de l'esprit, on peut dire, de ceux qui reçoivent Christ. Il est question des bénédictions de Lévi, il est question de Judas, de Ruben, même que Ruben vive et ne meurt pas, c'est-à-dire qu'il y a là une vie nouvelle pour Dieu, de Benjamin, le bien-aimé de l'Éternel, c'est Christ. Il habitera en sécurité auprès de lui. De Joseph, son pays est béni par l'Éternel. Il est la faveur de celui qui demeure dans le buisson est sur lui. Et toutes ces bénédictions sont à la disposition, sous toutes les ressources que Dieu veut pour son peuple. Et c'est ces ressources que la Sunamite a connues, qu'elle a expérimentées, ces ressources auxquelles elle fait appel. C'est ce qui va se passer dans un temps futur. Et alors, on voit tout de suite après. De Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon en ta sortie. C'est-à-dire, quand on a joui de toutes ces choses, quand on a reconnu que tout nous vient de Dieu, tout ce que Dieu a fait pour nous, alors on peut sortir, comme Zabulon qui sort et qui va proclamer ce qu'il a trouvé, qui va annoncer l'évangile. C'est ça l'annonce, annoncer l'évangile. On veut souvent annoncer l'évangile sans avoir connu tout ce que Dieu veut mettre à notre disposition. Et nous ne pouvons pas annoncer l'évangile, nous pouvons annoncer et proclamer que ce que nous avons ressenti pour nous-mêmes. Si je n'ai pas tout, je ne connais pas toute l'étendue des bénédictions, je ne peux pas proclamer un évangile complet. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être évangélisé. Le plus petit enfant peut dire ce qu'il sait. Et s'il le dit avec foi, s'il le dit d'un cœur qui est rempli du Seigneur, cela va apporter de la bénédiction. Mais après, il est dit d'Issachar, et toi, Issachar, dans tes tentes. ceux qui reviennent après, ceux qui sont au Seigneur, il y a des tentes pour les recevoir. Remarquons bien que ce n'est pas une cité permanente, ce n'est pas une maison, ce sont des tentes. Et la tsunamite, elle avait bien ressenti cela. C'est-à-dire quand elle a construit, quand elle a demandé à son mari de construire une chambre haute, elle ne l'a pas fait luxueuse, elle ne l'a pas fait selon la richesse qu'elle avait. Elle avait bien senti que cet étranger était un étranger céleste. Eh bien, cela nous montre un petit peu ce que nous devrions être, quelle place Dieu veut nous donner. À propos de la tsunamite, un petit mot. On a dit tout à l'heure, c'est elle qui avait l'autorité, c'est elle qui avait prenait l'initiative. C'est vrai qu'elle prenait l'initiative. Elle a l'initiative qu'on nos épouses, elles invitent. Mais quand il s'agit d'aller plus loin, quand il s'agit de faire une place, remarquez la position qu'elle prend. Elle dit à son mari, faisons. Et ensuite, mettons. Faisons, mettons. C'est elle. Elle ne le fait pas tout seul. Elle garde la place que Dieu donne dans sa parole à une épouse et aux femmes.
Il est rare, lorsque nous lisons l'Écriture, d'assister, de constater qu'une personne dont elle nous décrit la vie soit sans défaillance. Sans doute, on l'a souvent remarqué, c'est pour faire ressortir d'autant mieux l'excellence de la personne du Seigneur Jésus. Toutefois, il est des cas où Dieu se plaît à nous entretenir d'un personnage qui est fidèle tout au long du récit que nous en donne l'Écriture. C'est par exemple le cas de Joseph. Mais c'est aussi le cas de cette sainte femme de l'Israël de Dieu, qui reste tout au long de ce récit que nous avons lu, une digne fille d'Abraham. Et on peut dire qu'elle a été mûrie à l'école d'Élisée, ce saint homme de Dieu, car là où la foi existe, elle se fortifie et elle se développe en passant par toutes sortes d'épreuves nécessaires pour l'affiner, la fortifier, la développer. Et c'est ce à quoi nous assistons. Au fond, ce qu'elle va connaître, cette sainte femme, par une foi très hardie, c'est la puissance de Dieu qui vivifie, qui lui donne un fils. C'est la puissance de Dieu en résurrection, ce fils passant par la mort et ressuscité par la puissance de Dieu. Et ensuite, Dieu lui fait recouvrer la jouissance de son héritage. Et sans doute, elle avait tenu compte de la parole du prophète à cet égard. Ce qui est beau aussi, c'est de voir que dans la sphère que la parole lui reconnaît, elle accomplit pleinement son service. Cette hospitalité dont nous avons parlé, Pierre nous dit qu'elle doit être exercée sans murmure. Elle est d'un très grand prix. Dieu l'honore. Nous voyons comment, lorsqu'il y avait des nobles visiteurs se présentant près de la tente d'Abraham, comment il s'emploie à les recevoir d'une manière digne de Dieu. Eh bien, il y a quelque chose de ce dévouement, de cette énergie de foi pour recevoir l'homme de Dieu à la gloire de Dieu. Et ce qui a du prix pour le cœur de Dieu, c'est que lorsque nous recevons quelqu'un, dans nos foyers, nous le recevions à la gloire du Seigneur. Nous honorions le Seigneur en cela. Et nous pouvons dire que son dévouement est plein de délicatesse. Elle désire avant tout, lorsqu'elle a conscience qu'elle a affaire à un saint homme de Dieu, elle désire avant tout qu'il soit à son aise chez elle. Qu'il n'y ait pas de distance morale. Elle était riche, lui était pauvre. Il y avait une grande différence. Eh bien, cet Élisée qui restait un homme pauvre, un type tout à fait remarquable du Seigneur Jésus, se plaisait à venir dans ce foyer, et elle aurait pu disposer de une chambre richement elle aurait pu disposer par les moyens dont qu'elle possédait de tous les éléments nécessaires pour orner cette chambre, mais cela n'aurait pas convenu aux souhaits du prophète. Le prophète, elle le recevait en toute simplicité, et c'était sa manière de l'honorer. Nous avons dit que sa foi brille certainement plus que celle de son mari, mais il est très beau de souligner en même temps qu'elle ne se déplace pas, et que lorsque il s'agit des responsabilités qui pèsent sur le foyer, y compris le fait de prendre un jeune homme avec une ânesse, elle consulte son mari. Elle travaille au-dedans, elle observe, elle agit, sa foi peut se développer dans le foyer, mais dès qu'il y a des responsabilités à prendre pour le foyer, eh bien, elle donne la place à celui à qui elle est due. Et ceci est moralement très beau. Alors, pour le fait de découvrir que c'est un saint homme de Dieu, voilà quelque chose qui s'est passé au fil des jours. Elle l'a entendu parler, elle l'a vu vivre, elle a vu son comportement. Et dans tout ce que l'homme de Dieu exprimait, Dieu était véritablement là. Et quand il est entré dans cette maison, on pouvait dire « la parole de Dieu habite là ». Saint homme de Dieu, expression unique bien sûr, mais qui nous montre que Élisée était tout à la fois porteur de la parole de Dieu, un prophète de l'Éternel au sens véritable du mot, et en même temps, pour que puisse s'exercer son don dans la puissance du Saint-Esprit, il était moralement irréprochable. Et le caractère moral d'un serviteur accrédite toujours le don qu'il a reçu. Par contraste, nous pouvons penser au prophète de Juda qui est venu à Bethel en un roi 13. Eh bien, il avait lui aussi un don certain. Mais nous savons comment les choses se sont passées et comment il a été l'objet du jugement gouvernemental de Dieu. Pourquoi cela ? Parce qu'il n'avait pas obéi, tout simplement, à l'injonction divine qui était très précise. Nous voyons qu'il appartient à un homme de Dieu, saint, séparé de tout mal, de tenir compte de ce que dit l'Écriture. Et alors, pour ces hommes de Dieu, l'expression est employée environ 75 fois dans l'Ancien Testament, 3 fois dans le nouveau, c'est dire toute son importance. Et pour Élisée tout seul, eh bien, cela vient est donné environ 29 fois, si bien que nous pouvons souligner combien ce caractère d'homme de Dieu était vrai dans le cas d'Élisée. Et pour entrer plus en détail dans les caractères de l'homme de Dieu, il nous faut lire 2 Timothée 3, verset 16. Qui concerne tous ceux qui peuvent porter dignement ce titre. 2 Timothée 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » Donc l'homme de Dieu est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est quelqu'un aussi qui est accompli, c'est-à-dire qui est complètement qualifié par Dieu. Et cet équilibre dans la vie d'un tel homme se réalise par les œuvres qu'il accomplit. Dieu n'attend pas avant tout la connaissance, toute précieuse qu'elle soit. Mais pour notre équilibre à chacun, il est important que nous pratiquions ce que nous savons. Et ceci est un exercice de tous les jours pour chacun et pour chacune. Donc, accompli pour toute bonne œuvre. Et on peut dire que l'homme de Dieu était en général appelé à accomplir une mission particulière quand le peuple était en ruine. Et Dieu l'envoyait, le chargeait spécialement d'un message qui avait pour but de ramener le cœur du peuple à l'Éternel. Et sans doute dans le Nouveau Testament, l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui apporte Dieu là où il est, qui agit comme Dieu agirait. Cette expression est de toute importance. Elle est à désirer, notamment par des jeunes frères qui peuvent mûrir à l'école de Dieu, être un homme de Dieu, représenter Dieu là où nous sommes. Telle est la grâce qui peut être faite à ceux qui connaissent sa parole et qui ont à cœur de la mettre en pratique dans leur vie. Moïse est le premier qui soit cité comme homme de Dieu, une des figures les plus marquantes de l'Ancien Testament, comme nous le savons. Eh bien, cette qualité lui est donnée, lui est reconnue. David aussi, en sa propre génération. Et on a parlé de sept hommes de Dieu, il y en a aussi dont les noms ne sont pas nommés, mais ce qui importe avant tout, c'est que nous représentions Dieu là où nous sommes, dans notre foyer d'abord. Voilà où commence l'exercice de l'homme de Dieu, et ensuite partout où il se trouve. Combien il est important de recevoir un don de la part de Dieu pour l'édification de l'assemblée. Et un vieux frère avait dit à un jeune qui commençait à s'exprimer dans l'assemblée, « Tu as reçu un très beau don, fais attention de ne pas le gâter. »
On nous a parlé de l'hospitalité et nous avons à peu près le même terme employé, puisque plusieurs ont reçu à leur insu des anges, mais nous avons aussi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10e, et il arriva. Presque le même terme que pour Élisée, il arriva. Et c'est le Seigneur qui passe. Il arriva comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Nous avons ainsi non seulement des personnes qui allaient ainsi au logis des anges, mais nous avons Marthe et Marie qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur maison. Nous ne savons pas si elles étaient riches, mais de toute manière, elles l'ont bien reçu. Voyons que même Marthe a dépassé la mesure qui lui était assignée. Pour cette personne qui était riche, et je voudrais revenir un peu sur le terme, nous avons des personnes, et il en a été fait mention, de Barzilaï, de Nabal qui était riche. Nous avons Abraham qui était très riche, mais il est revenu très riche d'Égypte. Là où il était parti à cause d'une famine. Et nous savons que s'il était très riche en troupeaux, en or et en argent, il avait aussi ramené dans ses bagages une servante. Et nous en connaissons la suite. De plus, aussitôt après qu'il ait dit qu'Abraham était riche, dans la Genèse, très riche même, eh bien c'est la division et Lot est invité à choisir dans le pays. Je ne m'étendrai pas davantage, nous avons aussi des personnes qui étaient riches, dans l'Ancien Testament, mais nous en avons aussi dans le Nouveau Testament. Il a été fait mention de Joseph d'Arimathée. Il était riche. Et nous savons comment il a mis cette richesse au service du Seigneur et ses disciples en secret. Nous avons un homme riche dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12e. Un homme riche dont les champs avaient beaucoup rapporté. Comment va-t-il employer ses richesses? Eh bien, faisons des greniers plus grands et mettons à profit ses richesses que Dieu nous a accordé, et je dirai à mon âme, repose-toi, tu as beaucoup de biens pour beaucoup d'années. Donc nous voyons que cet homme s'est tout à fait fourvoyé dans ses pensées et employer sa richesse, pensait-il pour lui-même, insensé, dit le Seigneur. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Voilà donc comment l'homme peut employer ses richesses. Dans Luc 16 encore, nous avons un homme qui était riche. Il se vêtait de pourpre et faisait joyeuse chair chaque jour splendidement. Il a employé ses richesses pour lui-même et puis il désire une goutte d'eau. Elle lui est refusée. Elle lui est refusée. Une goutte d'eau, une simple goutte d'eau. Elle lui est refusée. Et alors, si nous avons des personnes très riches, comme nous l'avons vu, nous avons des personnes riches, comme la Tsunamite, qui a mis ses biens en bon profit, mais nous avons un jeune homme qui était, est-il dit dans les évangiles, extrêmement riche. Extrêmement riche. C'est la seule expression de la parole. Très riche, riche ou extrêmement riche. Et le Seigneur, quand il demande au Seigneur, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Hein, le Seigneur lui dit, bien, va. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Et puis, il s'en alla tout triste. S'en alla tout triste. Voyons donc combien il est important de faire part de ce que nous avons. Je dirais encore une pensée sur l'hospitalité. On pourrait se dire, ah oui, cette personne était riche. Elle a pu recevoir le prophète. Et alors, on pourrait en déduire, mais moi qui ne suis pas riche, comment vais-je recevoir? Ah, nous devons premièrement recevoir avec ce que nous possédons. Et ensuite, le Seigneur pourvoira, même si nous avons dû faire certains sacrifices. Donc, n'attendons pas d'être riches avant de recevoir. Recevons premièrement, et le Seigneur sera béni. Hein.
Il nous est dit du Seigneur Jésus qu'il a, lui étant riche, a vécu dans la pauvreté pour nous, afin que, par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Nos biens, nos richesses sont en haut. Un frère l'a rappelé ce matin, bénédiction dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Et ce que, pour employer l'expression, ce que nous possédons ici-bas, c'est un prêt de la part de Dieu. Il y a quelques enfants ici avec nous, plus jeunes, moins jeunes. Il est normal, par charnellement, disons, et on le constate dès l'enfance, de dire « ceci c'est à moi, c'est pas à toi ». Voilà l'égoïsme naturel de l'homme. Élisée labourait avec 12 paires de bœufs. C'était donc un homme énergique, mais un laboureur. Et s'il a été parlé de Timothée, l'apôtre lui parle de l'exemple d'un laboureur qui connaît la terre. C'est un pénible travail. Donc Élisée est un homme fort, car pour marcher après 12 paires de bœufs, il ne faut pas être le premier laboureur venu. Et nos frères ici pourraient en dire plus que moi sur ce sujet, étant du métier. Mais que nous parle la terre? Elle nous parle du cœur, que Dieu laboure. Et il n'y a qu'une bonne terre lorsqu'elle est préparée par Dieu pour recevoir la semence. Et là, cette semence germe et porte du fruit. Pour qui? Pour Dieu. Élisée n'a pas cherché à porter du fruit pour lui. S'il est parlé de la foi de cette femme, il faut bien aussi que nous parlions de l'humilité d'Élisée. Et cela est aussi important pour un homme de Dieu bien-aimé. Dans les temps particulièrement difficiles par lesquels nous passons, le chemin du service commence par l'humilité. Et que dit-on d'Élisée? Qu'il labourait avec 12 paires de bœufs? Dans le chapitre précédent que celui qui nous occupe, un des serviteurs du roi d'Israël, fin du verset 11, répondit ici, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Il devait être désigné prophète à la place d'Élie. Lorsque Élie a mis le manteau sur les épaules d'Élisée, est-ce que nous voyons Élisée dire, « Eh bien moi, qui s'est labouré avec 12 paires de bœufs, écoute Élie, Dieu t'a envoyé vers moi, donc le temps est venu de te mettre de côté. C'est moi qui vais te remplacer. » Élisée, quoique désigné de la part de Dieu, a su attendre. Quelle leçon bien-aimée pour nous, de savoir attendre l'heure du service, ne pas la laisser passer, ce serait de la paresse. Et en attendant, que faire? Il ne semble voir ce jeune homme, lorsqu'Élie devait se laver les mains, sans doute aussi se laver les pieds, puisque ces deux hommes ont été deux grands marcheurs, on nous l'a rappelé, faisant de nombreux kilomètres à pied. Et nous pouvons voir là, dans Élisée, une figure du Seigneur Jésus, de Jean 13, qui a versé l'eau dans le bassin et qui s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Pour Élie le prophète, qui vivait dans un temps difficile et qui en souffrait, et qui aimait le peuple au point de prier l'Éternel pour qu'il ne plût pas, afin que cette famine, ce temps de sécheresse, ramène le peuple à Dieu. Eh bien, Élie, il a participé à cette sécheresse. Et plus tard, c'était une douceur pour son cœur d'avoir un jeune homme comme Élisée qui ne s'était pas avancé avec orgueil, mais qui se penchait auprès d'Élisée pour verser l'eau sur ses mains. Figure du Seigneur Jésus. Et maintenant, Élisée est là. Il est passé dans la maison d'une femme pauvre. C'est le paragraphe précédent. Il est important de le souligner. Jésus à Béthanie. On se fait la dit qu'on ne savait pas si ce foyer était pauvre ou riche, mais c'est pendant un long temps que Marie a préparé ce parfum de nard pur, dont on peut évaluer, hélas, la valeur matérielle, mais quel prix ce parfum a eu pour le cœur du Seigneur Jésus. Quelques femmes l'assistaient de leur bien, nous est-il dit du Seigneur Jésus. Et pour Élisée, il est entré dans la maison d'une femme pauvre et ensuite dans la maison d'une femme riche. Il faut, comme il est écrit, « Et je me mis à paître les pauvres du troupeau ». N'avons pas de choix à faire. C'est un autre côté, cela, chers amis, du serviteur de Dieu. N'allez toujours que vers les mêmes, parce que, je n'en dis pas plus, et peut-être oublier les autres. Il peut aussi arriver que ce mal touche quelques assemblées locales. Nous ne faisons pas de reproches, mais une assemblée éloignée, isolée, dans un petit village qui n'est pas souvent visité, et d'autres plus connus qui le sont souvent. Élisée, comme le Seigneur Jésus, allait. Il marchait. Il allait de lieu en lieu, nous dit le livre des Actes, faisant du bien et délivrant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Et puis, qu'est-ce qu'ajoute l'Écriture ? Car Dieu était avec lui. Eh bien, Dieu était avec Élisée, cet homme humble, et Élisée était avec Dieu. Et ce qu'Élie pouvait dire et déclarer, eh bien, ce jeune homme qui avait vécu près d'Élisée humblement, il pouvait le dire aussi. L'Éternel, devant qui je me tiens, est vivant. Et voilà que Élisée passe par Sunem. Chez cette femme riche, après être installée chez cette femme pauvre. Nous disons encore un mot d'une femme riche, Lydie, la marchande de pourpre. De Marie à Béthanie, il est souligné que s'étant assise aux pieds de Jésus, elle écoutait sa parole. Voilà ce qui est d'un grand bien pour nos chères sœurs, jeunes ou moins jeunes, d'un grand bien aussi pour nous. Et pour qu'une épouse, une jeune fille, garde la place de cette femme de foi, ne mettant pas son mari de côté, mais faisant appel à l'autorité que Dieu a donnée à son mari. Comme notre frère l'a dit, ne quitte pas sa place, pour qu'il en soit ainsi dans nos vies de famille et d'assemblée. Il est souhaitable que nos sœurs soient aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. C'est ce qui caractérise les femmes de Dieu. Et de Lydie, il est dit la même chose. Acte 16, merci. Verset 14. Et une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, qui servait Dieu, Marthe et Marie ont servi le Seigneur, qui servait Dieu, qu'est-ce qu'il est dit? Écoutait. Eh bien, cette journée, Dieu nous l'accorde pour écouter. Nous sommes devant Dieu pour écouter ce qu'il a à nous dire, bien-aimés. Et que notre cœur soit cette terre labourée, préparée par lui, où la semence germe et porte des fruits pour lui. Élisée a porté des fruits pour Dieu. Il y a eu des fruits produits par le ministère d'Élisée dans cette maison. Et là, chez Lydie, elle écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Ah, que le Seigneur veuille ouvrir beaucoup de cœurs. Y a-t-il peut-être encore ici, en cette journée, une âme dont le cœur n'a pas été ouvert, ou qui ne s'est pas laissé ouvrir le cœur par le Seigneur? Le Seigneur vous pose aujourd'hui cette question qu'Élisée a posée à cette femme. Qu'y a-t-il à faire pour toi? Il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire pour nous. Et le Seigneur s'avance pour faire cette chose pour notre joie présente et éternelle. Écoutons cette voix. Le Seigneur l'a posée à un aveugle. Que veux-tu que je te fasse? Y a-t-il quelque chose à faire pour toi? Ah, que nous ne disions pas, Seigneur, il n'y a rien à faire pour moi. Que nous sachions reconnaître que nous avons besoin du Seigneur, comme cette femme avait besoin d'Élisée. Il y avait quelque chose à faire pour elle. Eh bien, le Seigneur veut le faire encore aujourd'hui. Et elle fut attentive aux choses que Paul disait. À être attentif. Combien nous avons besoin au début d'une réunion, et pour nous personnellement, de demander au Seigneur qu'il nous garde de distractions. Les chants de son mari ne distrayaient pas cette femme remarquable. Son cœur était occupé. De ce saint homme de Dieu et de ce qu'il lui apportait à chaque passage. Elle était attentive aux choses que Paul disait. Et puis, nous retrouvons chez elle l'humilité dans le service. Et elle va leur dire, si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Quelle hospitalité d'amour. Et ensuite, il y aura de la persécution pour les hommes qu'elle a reçus. Et à la fin du chapitre 16, où vont aller Paul et Silas quand ils sont sortis de la prison? Et étant sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et ayant vu les frères, ils les exhortèrent et partirent. Quelle joie pour le cœur du Seigneur, celui que le psaume 41 appelle le pauvre, de connaître un Béthanie. Quelle joie pour Élisée de connaître un Sunem. Quelle joie pour Paul et Silas de connaître la maison de Lydie.
Un très bref instant seulement pour signaler, c'est cet homme de Dieu, nous avons la pensée que des jeunes gens désirent maintenant savoir beaucoup plus sur la carrière des hommes de Dieu. Nous en avons 7 nommés, nous les nommons Moïse, Samuel, David, Élie, Élisée, Shemaïa et Gidalia. De Gidalia, vous voyez Jérémie 35, nous ne savons pratiquement rien, il était un homme de Dieu. Ces 7 sont nommés, nous n'avons pas le temps de donner des références. Si quelqu'un est intéressé, après la réunion, bien volontiers, nous le ferons. Les 4 non nommés de l'Ancien Testament, 1 Roi 13, l'homme de Dieu venant de Juda, ensuite 1 Samuel 2:27, 1 Roi 20:28 et 2 Chroniques 25:7-9. 7 et 4, 11 donc, pour l'Ancien Testament. Timothée seul est nommé homme de Dieu dans le chapitre 6 de la première épître, dans le Nouveau Testament, 7 et 14 et 1, 12 donc, dans les Écritures. Au sujet de l'expression « saint homme de Dieu », elle est rare, effectivement, nous la retrouvons aussi en 2 Pierre 1:21, mais alors pour montrer les saints hommes de Dieu qui ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint, ce sont en somme les écrivains sacrés, et ils sont rangés sous ce beau titre « Saint homme de Dieu ». Voilà très rapidement, en somme, les 12 hommes de Dieu, et nous pouvons donner quelques références après la réunion. Si quelqu'un voulait aborder un sujet qui est passionnant, c'est passionnant de voir quelle fut la carrière de David, Samuel et autres. Ces choses sont fortement édifiantes.
Nous aimerions juste dire un petit mot au sujet de cette rencontre d'Élie avec Élisée, en particulier lorsque Élie trouve cet homme énergique, et c'est justement 1 Roi 19:19, il semble qu'une petite précision s'impose à ce sujet. Nous y avons fait allusion à ces 12 paires de bœufs, il est peut-être bon que on donne quelques précisions à ce sujet. 1 Roi 19:19, et Élie s'en alla de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, et il labourait avec 12 paires de bœufs devant lui, et lui était avec la 12e. On pourrait penser que 12 paires de bœufs devant soi veut dire 24 bêtes, et la parole précise bien, et lui était avec la 12e. Il faut nous reporter au temps de l'Ancien Testament. Nous avons dit que Élisée, dans son ministère, nous le répétons bien, dans son ministère, était un homme pauvre, à l'image du maître que nous connaissons et qu'il servait, qui a été l'homme pauvre par excellence. Mais ici, il n'en est pas question. Ici, l'Écriture, en nous montrant, en nous disant qu'il labourait avec 12 paires de bœufs devant lui, veut simplement dire qu'il a à sa disposition, dans la maison de son père, 12 paires de bœufs. Ce qui signifie qu'Élisée se trouvait dans une maison qui était fort riche. Chacun sait, nous l'avons rappelé tout à l'heure, que la richesse autrefois se mesurait au nombre de bêtes, de valeurs qu'on avait, comme Abraham, dont il est dit qu'il était très riche en troupeaux. Eh bien, c'était une maison riche. Et ce que l'Écriture veut dire ici, c'est que Élisée était un homme énergique et que bien qu'il y ait 12 paires de bœufs à sa disposition, il pouvait toutes les utiliser. La précision est donnée, à ce moment-ci, il était avec la 12e. Mais il aurait bien pu aussi bien utiliser la première paire de bœufs que la 12e, ce qui nous montre qu'il avait un travail qu'il remplissait consciencieusement, qu'il sortait d'une maison qui était riche, 12 paires de bœufs représentaient une certaine richesse à ce moment-là, et c'est beau de voir qu'ensuite, comme il a été rappelé, de cette condition aisée de laquelle il sort, parfois par attachement à l'Éternel, et donc à l'appel qu'il reçoit de la part de l'Éternel par Élie, eh bien, il quitte cette situation pour être celui qui va verser de l'eau sur les mains du maître et qu'il servira plus tard alors qu'il sera chauve.
un mot encore au sujet de cette rencontre. Le travail d'un serviteur de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Pas plus à ce temps-là qu'au temps de Paul. Paul savait qu'il allait à Jérusalem, mais il ne savait qu'une chose, c'est que des liens et la tribulation l'attendaient. Bien qu'étant un prophète de grâce, comme on l'a dit, il y a beaucoup plus de miracles dans le ministère d'Élisée que dans celui d'Élie. Il y a aussi cette scène à la fin du chapitre 2 qui est un jugement. Un prophète est reçu ou il n'est pas reçu. Il n'a rien d'attrayant, un prophète. Un prophète est vêtu de... Saint Jean-Baptiste était vêtu de vêtements de poils. Méprisé, se tenant dans les déserts, mais dépendant. Il est prêt à affronter toutes les situations, toutes les circonstances. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, cette expression qui est dite d'Élie, la première chose qu'il est dite, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il dit aussi d'Élisée, au chapitre 3, au verset 14. Donc dans cette fin de chapitre 2, ces enfants, ces jeunes, ces petits garçons se moquent du prophète. C'est grave de se moquer d'un prophète, d'un serviteur de Dieu. Monte chauve. Une allusion sans doute au fait qu'Élie est monté au ciel. Et en même temps, on vient de le dire, il était chauve. Les moqueurs, il y en a eu de tous les temps. L'apôtre Pierre nous en parle. Des moqueurs viendront. Et bien aujourd'hui, nous avons affaire à beaucoup de personnes de toutes sortes. Mais cette rencontre d'Élisée et de cette femme n'est pas le effet du hasard. D'Élie, il est dit, va à Sarepta de Sidonie vers une femme veuve. Ici, cela n'est pas dit, mais nous pouvons bien penser que Élisée était conduit par Dieu pour aller vers cette femme. Et d'autre part, que cette femme avait des besoins et Dieu le savait. Et ce n'est pas au hasard qu'il a envoyé Élisée. Cette rencontre est donc très édifiante et on peut encourager, on peut penser que aujourd'hui encore, les âmes qui ont des besoins, le Seigneur y répondra. Faisons quelquefois du souci beaucoup pour des personnes, peut-être même quelquefois pour des pays lointains, mais pensons bien que Dieu s'occupe de toutes les âmes, aucune n'est oubliée. Et s'il y a des besoins, Dieu y pourvoit. Cela ne veut pas dire que le serviteur doit être paresseux, loin de là. Quant à l'activité, pas paresseux. Mais être dépendant. Voilà un caractère de l'homme de Dieu. Le serviteur parfait était celui dont il est dit, il ouvre mon oreille chaque matin pour donner une parole à propos à celui qui est là. Est-ce que nous sommes prêts dans le détail? Nous voudrions peut-être faire quelque chose, des choses que le Seigneur ne nous demande pas. Mais est-ce que nous sommes prêts à faire ce que le Seigneur place devant nous dans les petites choses? Qui a méprisé le jour des petites choses?
Les temps difficiles par lesquels nous vivons nous amènent encore une fois à donner une pensée qui a souvent été donnée. Des frères qui nous ont devancés, même les frères actuels, se sont employés avec zèle à nous rappeler cette pensée solennelle. Nous faisons appel en particulier à nous-mêmes, les jeunes couples qui avons des enfants et par conséquent une grande responsabilité. Ce qui caractérise un croyant et ce qui le différencie du monde, c'est qu'il est saint. Non seulement saint par appel, mais saint dans sa marche. Nous sommes sanctifiés pour le Christ Jésus. Notre appel est céleste. Notre marche doit l'être aussi. Il est intéressant de voir dans ces versets que nous avons lus, d'un côté, cette femme qui reconnaît le prophète comme Jean-Baptiste n'ayant jamais vu le Seigneur, ayant vu le Seigneur marcher, dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais certainement aussi, le prophète, puisqu'il était un prophète, savait ce qui concernait l'état spirituel de cette femme. Et nous ne pensons pas que, si cette femme n'avait pas fait partie des 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, Élisée ne se serait jamais arrêtée dans cette maison. Dans les versets que nous n'avons pas lus, concernant la femme des fils des prophètes, Élisée pose une question à cette femme. Nous ne l'avons pas lu, mais nous nous servirons de cette expression. Au verset 2, Élisée lui dit, « Que ferai-je pour toi ? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Laisse-moi rentrer chez toi et je te dirai qui tu es. » Ce n'est pas dans un esprit de jugement que je me suis approché, mais sentant une responsabilité devant le Seigneur. Qu'avons-nous dans nos maisons ? Est-ce que nous avons compris que nous sommes différents du monde, non seulement dans notre position, dans ce que le Seigneur nous a donné par grâce, mais dans notre marche, dans notre façon de nous comporter dans nos maisons. Trois fois dans ce chapitre, il est dit que la porte est fermée. Les deux premières fois, c'est la femme elle-même qui la ferme.
Dans le premier cas, c'est la femme d'entre les fils des prophètes, verset 5. Et puis dans ce qui nous concerne,
verset 21, c'est elle qui ferme la porte. Et au verset 33, c'est Élisée qui ferme la porte. Nous avons des enfants. Nous en sommes responsables. Et la parole est une épée aiguë à deux tranchants. Nous le rappelons humblement, celui qui la prend, cette épée qui n'a pas de manche, il se blesse. Elle me transperce. Que faisons-nous dans nos maisons ? Est-ce que nous avons à cœur d'élever nos enfants pour le Seigneur ? En dehors des choses du monde, il a été rappelé ce verset tout à l'heure de la première épître de Jean, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et ces choses qui sont dans le monde, elles sont caractérisées par trois faits. Trois choses, la convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Voilà ce qui est dans notre propre cœur à chacun, et qui, par conséquent, est dans le cœur de nos enfants, dans ces cœurs naturels qui, peut-être, ne sont pas encore au Seigneur. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, au verset 20, il est dit « Il y a un trésor désirable et de l'huile dans la demeure du sage. » L'huile, c'est la figure du Saint-Esprit. Nous le savons, le trésor désirable, n'est-ce pas la parole de Dieu ? Eh bien, est-ce que nous ouvrons la parole de Dieu dans nos foyers ? Est-ce qu'elle a la première place ? Est-ce qu'elle est notre guide ? Nous n'avons pas de règles pour marcher. Pas de règles d'interdiction et d'obligation. Nous ne sommes pas sous la loi. La parole de Dieu n'est pas un livre de règles. C'est un livre qui s'adresse au cœur et à la conscience du racheté. Eh bien, la parole nous dit « N'aimez pas le monde ». Est-ce un commandement ? Oui. Mais un commandement qui passe par le cœur. Est-ce que nos cœurs sont engagés pour suivre les enseignements de la parole, pour élever nos enfants sous le regard du Seigneur, dans la discipline du Seigneur ? C'est de toute importance. Nous avons dans le second livre de Samuel, lorsque les Israélites ont retrouvé l'arche, David n'a pas voulu de cette arche dans sa maison. Et c'est la maison d'Obénédom qui prend l'arche. Qu'est-il dit de cette maison d'Obénédom ? En 2 Rois 5, verset 11, il est dit « Et l'arche de l'Éternel demeura 3 mois dans la maison d'Obénédom, le Guittien. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Et on rapporta à David en disant, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Si nous voulons la bénédiction dans nos maisons, il faut marcher avec Dieu. C'est un prix à payer. Fermons les portes de nos maisons et avec la grâce du Seigneur, avec le secours du Seigneur, non pas par nous-mêmes, mais avec le secours du Seigneur, par la prière de chaque jour, supplions le Seigneur que nous ayons la force de laisser le monde dehors. Le chrétien est séparé du monde, il est différent du monde, dans sa marche, dans ses occupations, dans sa façon de vivre. C'est très solennel, nos maisons, nous sommes responsables, nous, pères de famille, nous sommes responsables de nos foyers que le Seigneur nous donne dans ces temps difficiles, où le monde et Satan, qui en est le prince, cherchent toujours de plus en plus à nous attirer vers le monde. Eh bien, que le Seigneur nous donne de mettre dehors, de brûler toutes les idoles, tout ce qui fait entrave à la bénédiction dans nos maisons. Y a-t-il dans nos maisons des choses qui ne permettent pas que le Seigneur bénisse ces maisons? On peut se poser la question, chacun, moi le premier, brûlons l'idole. Nous qui montons à Bethel, chers amis, tous les dimanches, changeons de vêtements, purifions-nous et montons adorer.
On a parlé de Lydie et de sa maison. Lydie ouvre son cœur, ensuite elle ouvre sa maison. C'est l'ordre normal. Elle ouvre son cœur à la parole, ensuite sa maison s'ouvre, le fruit est là. Mais il est ajouté quelque chose dans la question qu'elle pose à Paul. Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Alors, l'hospitalité porte là un caractère moral, la fidélité au Seigneur. On a insisté sur le saint homme de Dieu qui est reçu. La femme porte également un caractère, cette fidélité au Seigneur. Et c'est très beau de voir que Lydie a cette intelligence d'ouvrir sa maison dans la mesure où son caractère est reconnu comme étant fidèle. On a parlé des fils d'Issacar et il serait dommage de ne pas rappeler dans 1 Chronique 12 qu'il y a là des hommes qui ont aussi un caractère particulier. Les fils d'Issacar, 1 Chronique 12 verset 32, qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Le discernement spirituel. Aussi, cette femme a un discernement spirituel, on l'a vu, elle a su reconnaître l'homme qui passait. Et ce discernement a été suivi d'une mise en pratique, puisque elle a non seulement ouvert sa maison, mais elle a fait spécialement cette chambre haute. En Orient, les toits sont plats, c'est encore le cas aujourd'hui en Afrique, en Orient, le toit est plat et puis celui qui construit laisse dépasser des fers pour toujours avoir la possibilité de construire sur le toit. Et cette chambre haute, on la trouve souvent dans l'écriture, ça dépasse le cadre de notre étude, rappelez cela, mais on y trouve Pierre dans le chapitre 10 des Actes, on trouve bien sûr la chambre haute dans laquelle le Seigneur se retrouve pour le dernier souper avec ses disciples. Mais cette chambre haute, elle porte le caractère reconnu au prophète. On a déjà insisté sur ce fait que cette femme est reçue avec simplicité. C'est une petite chambre haute et qui va être tout à l'heure le témoin d'un événement extraordinaire. C'est là que l'enfant va être couché, c'est là qu'il va être ressuscité dans cette chambre. Donc cette femme, elle va recevoir de la part de Dieu, pour ainsi dire, une rémunération qui dépassera toutes ses espérances. Si nous voulons avancer un tout petit peu, nous pouvons dire encore qu'il y avait de la reconnaissance d'abord chez le prophète, puisque au verset 13 de notre chapitre 4, il parle à Géasi, tu as montré pour nous tout cet empressement. Il sait reconnaître le dévouement qui s'est exercé envers elle. Et la question que pose alors Élisée, par l'intermédiaire pour le moment de Géasi, qu'y a-t-il à faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Cette question, sans doute Élisée s'attendait pas à ce que cette femme exprime là un désir de cet ordre, mais c'est une mise à l'épreuve, c'est un test. Qu'est-ce que tu désires? Oh, j'habite au milieu des fils de mon peuple. Voilà un état heureux, un état de satisfaction dans les choses que Dieu a données, dans les conditions qui sont les siennes. Elle est au milieu de son peuple. C'est une digne fille d'Israël. Moïse avait choisi d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, parce que c'était le peuple de Dieu. Elle était au milieu de son peuple. Elle y était heureuse, il ne lui fallait rien d'autre. Mais, voilà, la suite du paragraphe nous montre qu'il y avait quelque chose qui était pour elle une souffrance permanente. C'était l'absence d'un fils, d'un héritier. C'était le désir de toute femme en Israël d'avoir un descendant qui pourrait prendre place dans la lignée du Messie. Et effectivement, ce désir est transmis. C'est une femme stérile, comme d'autres en Israël. Il y a donc un miracle pour la naissance même du fils, et il y aura un autre miracle pour la résurrection de ce fils.
Il vient de nous être dit des choses bien importantes depuis ce matin. Est-ce que nous avons le sentiment que le Seigneur veut nous parler? Non pas enrichir nos esprits de connaissances pour la connaissance, mais de choses qui parlent à nos consciences et à nos cœurs. Je me souviens de ce frère qui est dans le repos depuis bien des années et qui nous disait une fois, si nous avons ouvert la parole de Dieu et que nous ne nous sommes pas sentis jugés, nous avons perdu notre temps. Certainement, la parole ne fait pas que de nous juger, mais elle commence par là. Elle nous fait comprendre ce que nous sommes. Alors je voulais ajouter un mot, parce que ce qui vient d'être dit était sur mon cœur. Lorsque Élisée met cette femme de foi à l'épreuve, c'est pour qu'elle reçoivent quelque chose au-delà de toutes ses espérances. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? C'est une grande tentation aujourd'hui pour nous, pour les plus jeunes particulièrement. Cela a pu être notre cas. Parler au roi, on peut avoir un bon emploi, un emploi de fonctionnaire, bien à l'abri de toute détresse, de tout souci dans le travail. Faire sa carrière bien tranquillement. Il n'est pas question de juger les autres, il est question de juger les motifs de nos cœurs, de nos propres cœurs. Un emploi, une place près du chef de l'armée est peut-être plus encore de nature à mettre nos capacités en évidence, notre courage, notre valeur. J'habite au milieu de mon peuple. Qu'est-ce que dit Paul à Timothée ? Sois sobre en toutes choses. Endure les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Accomplis pleinement ton service. Quatre choses que nous devons garder sur notre cœur. À quel âge que nous soyons, pour être un serviteur, une servante du Seigneur, humblement, là où il nous veut, pour faire ce qu'il veut, comme il veut. Oh, puissions-nous avoir ce saint désir.
On peut souligner aussi la progression de la communion de cette femme de Sunem avec Élisée, c'est une femme de foi qui donc a mis sa foi en exercice dans cette hospitalité. Élisée s'est arrêté une fois, et puis il se retirait dans cette maison pour manger le pain. Nous avons dit tout à l'heure que à la table s'exprime la communion, manger le pain. Il y avait là des conversations qui se renouvelaient, et cette femme entendait la parole de Dieu de la bouche du prophète. Pourquoi ? Parce qu'elle avait reçu cet homme qui passait, parce qu'elle a ouvert sa maison au bon moment aux serviteurs de Dieu. Elle a donc été instruite. Et maintenant, non seulement cet homme s'arrêtera pour manger le pain, mais cet homme logera là. La communion va croissant, cet homme va habiter un temps dans cette maison, un jour, une nuit, puis encore une fois, un autre jour, une autre nuit, et la chambre haute est construite, et cet homme ainsi va pouvoir demeurer là, quelques instants de plus que seulement pour manger le pain, des instants toujours plus précieux où cette femme apprend toujours plus à l'école de Dieu ce qu'elle avait encore à apprendre pour que sa foi soit complétée. Et c'est alors que l'épreuve va survenir. La première épreuve, c'est l'épreuve de la parole. La parole, il est dit au sujet de Joseph, la parole de Dieu l'éprouva. Eh bien, voilà d'abord une première parole de Dieu qui éprouve cette femme. Elle est appelée, « Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Eh bien, non. Elle est contente de la place que Dieu lui a donnée au milieu de son peuple. Elle ne désire pas autre chose que ce que Dieu donne. Et ce devrait être notre désir à tous. Un contentement. Le contentement avec la piété. C'est là le gain, d'après la parole, la piété et le contentement. Cette femme était pieuse, elle était contente. Elle avait le secret du bonheur. Il réside là pour nous tous, le secret du bonheur, la piété et le contentement de la part que Dieu nous donne dans ce monde. N'envisagez, ne convoitez rien de plus. Tout ce qui irait au-delà de ce que Dieu donne, c'est de la convoitise, c'est donc du péché. Et en particulier lorsque l'on cherche à faire rejouer les relations pour obtenir quelque chose de mieux, quelle qu'elle soit, que ce soit par l'intermédiaire d'un ami croyant ou à plus grave raison de la part d'un homme du monde bien, bien placé pour obtenir quelque chose de plus que ce que Dieu veut nous donner, eh bien là nous péchons. Nous devons garder cette mesure que notre frère vient de souligner, être content de ce que Dieu nous donne, d'être là où nous sommes, là où Dieu veut nous avoir pour témoigner pour lui. Nous ne sommes pas dans ce monde autre chose que comme des témoins du Seigneur. Et nous sommes exhortés, notre frère vient de parler de la sobriété, nous sommes exhortés à vivre sobrement, justement et pieusement en attendant l'apparition du Seigneur. Sobrement quant à nous-mêmes, ne désirant rien d'autre que ce que cette femme désirait pour elle-même, rien d'autre que ce que l'Éternel lui avait donné au milieu de son peuple. Justement, c'est aussi cette justice pratique que nous avons à manifester devant les hommes, et pieusement des rapports de communion intime de nos âmes avec Dieu, dans des rapports de crainte, de confiance continuelle, comme cette femme l'a manifesté à l'égard du serviteur de Dieu qui était le représentant de l'Éternel lui-même. Alors cette première épreuve étant passée, eh bien, on va à la deuxième épreuve, qui est celle alors qui était la douleur secrète et intime de son cœur. Que faut-il faire pour toi ? Elle n'a rien dit dans la première entrevue, et puis elle s'en est allée. Et puis Élisée cause à Guéhazi, s'entretient au sujet de cette femme, et cette femme est rappelée à nouveau devant Élisée pour une deuxième épreuve. Eh bien, cette épreuve va être aussi une épreuve de la foi, c'est croire ce que Dieu dit, croire la parole de Dieu. Même si ce qu'elle annonce est quelque chose d'impossible à croire. La foi, c'est cela. C'est croire des choses, même des choses impossibles. Et pour cette femme, c'était apparemment une chose impossible d'attendre un enfant au terme échu. Et c'est pourtant ce qu'elle a dû croire. Non, mon Seigneur, ne mens pas à ta servante. C'est quelque chose d'incroyable, mais c'est quelque chose qu'elle a, c'est une parole qu'elle a reçue par la foi, puisqu'elle s'est accomplie. Elle ne se serait certainement pas accomplie sans la foi de cette femme pour recevoir et croire dans cette parole du serviteur de Dieu. Et alors nous voyons donc qu'elle va être récompensée parce qu'elle a eu cette communion intime avec le serviteur de Dieu, parce qu'elle a montré dans cette communion une activité heureuse, un service avec beaucoup d'empressement, beaucoup de zèle. Et alors sa foi va être récompensée, elle va avoir l'enfant tant désiré qu'elle désirait secrètement dans son cœur, mais un désir dont elle ne s'était pas ouvert même devant Élisée. C'est-à-dire qu'il y a des choses secrètes, des douleurs secrètes qui sont là, des désirs secrets aussi qui sont selon Dieu, mais qui peut-être ne peuvent pas s'exprimer aussi convenablement qu'il le faudrait, et peut-être pense-t-on que la chose est impossible. Mais si la foi se hisse à la hauteur de la parole de Dieu qui révèle ce que Dieu peut faire, alors Dieu peut faire des choses impossibles. Mais il le fait à l'égard d'une femme dont la foi s'est fortifiée, comme Abraham dont la foi s'était fortifiée et qui a pu aussi recevoir un enfant alors que son corps était amorti, et alors qu'il a pu le recevoir par la résurrection, alors qu'il devait l'offrir en sacrifice, tout cela après une préparation intime de cet homme de Dieu, comme aussi cette femme a été préparée petit à petit à recevoir cet enfant et ensuite à le recevoir par la résurrection.
Quelques mots seulement sur cette expression « J'habite au milieu de mon peuple ». Cette simple parole est lourde pour nous d'exercice profond. Dans quel état était le peuple ? Akija peut dire au début dans la première partie du premier livre des rois, mais quoi ? Déjà, maintenant, que veut-il dire par là ? Mais quoi, déjà, ce que Dieu a fait, le témoignage que Dieu a manifesté dans l'établissement de la royauté selon sa pensée en un David, le roi selon le cœur de Dieu, déjà, tout cela porte l'empreinte ineffaçable de la ruine. Et nous en ressentons nous-mêmes quant à l'état de l'Église, de ce qui porte le nom de Christ maintenant. Nous en ressentons la douloureuse similitude. Eh bien, au milieu d'un tel état de choses, où l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, est inconnu. Il n'était même pas connu des gens considérés au milieu du peuple. Il faut un exercice profond de foi pour le discerner. L'homme de Dieu n'est pas connu. Il est un inconnu au milieu du peuple de Dieu. Mais il sert, cela nous a été rappelé humblement, fidèlement, au milieu des pauvres du troupeau. Et c'est un exercice de foi que d'accepter un tel état de choses, puisque Dieu agit encore actuellement avec puissance, malgré l'état de ruine et l'infidélité de ceux à qui, officiellement, il a confié son témoignage. En cela, n'est-elle pas, je dirais, moralement supérieure au prophète Élie? Elle accepte cet état de choses parce que Dieu agit avec patience. Il laisse le bon grain et l'ivraie dans le champ. Ce n'est pas encore le moment de faire le tri, mais Dieu agit en grâce et en miséricorde envers sa créature, envers son peuple et envers les siens. La parole de Dieu dans un temps de ruine par un prophète, Sophonie, elle est celle-ci à son chapitre 3. « Je laisserai au milieu de toi un peuple abaissé et affligé. » Sophonie, chapitre 3. Et il est dit, si je me souviens bien, « Et ils se confieront en l'Éternel. » Verset 12, « Je laisserai au milieu de toi un peuple affligé et abaissé. » Ils se confieront au nom de l'Éternel. Voilà quelle est la ressource. Et nous sommes appelés au milieu d'un tel état de choses que nous connaissons. Et ne parlons pas seulement de la chrétienté, mais portons le deuil de ce que est devenu le témoignage du temps de la fin que le Seigneur a confié aux siens. Qu'est devenu un tel témoignage? Ce que Dieu a confié, ce que le Seigneur a confié aux siens en Philadelphie. Eh bien, ce n'est pas le moment de perdre courage. Au milieu d'un tel état de choses, le Seigneur nous montre cet exemple. Une femme, que pouvait-elle faire? Avait-elle besoin du roi? Avait-elle besoin du chef de l'armée pour servir ou pour rétablir aux yeux de Dieu et maintenir ce qui était cher à son cœur au milieu d'un tel état de choses, au milieu d'un peuple apostat, idolâtre, pour maintenir ce caractère du résidu? La foi ne regarde pas aux hommes. Quand le Seigneur est venu au milieu de ce monde, le résidu l'attendait.
Mais quel affolement, quel trouble à la cour du roi Hérode. Eh bien, la foi l'attendait. Et nous avons ce tableau du résidu fidèle et pieux au début de l'évangile de Luc. J'habite au milieu de mon peuple. Nous venons, nous nous trouvons quelques-uns, sentant la faiblesse. Et c'est là même notre ressource, elle nous rejette sur le Seigneur. Nous sentons la ruine, nous en souffrons. Nous en baissons la tête, nous nous humilions. Nous sentons dans l'assemblée locale ce qui est un sujet d'exercice et de souffrance. Nous en parlons au Seigneur. J'habite au milieu des tiens, Seigneur. Et c'est ton assemblée. Il nous est précieux de regarder, non pas aux hommes, non pas même aux serviteurs, mais de regarder au Seigneur lui-même. Et c'est là que le Seigneur, alors, va mettre et va faire reposer sa bénédiction. Elle doit faire l'expérience d'une chose, c'est que sur la base des ressources naturelles, des ressources de la terre, tout est perdu, parce que la ruine est là. Mais la ressource est comme Anne, en son temps, dans le premier livre de Samuel. Anne doit aussi apprendre que c'est en prenant la place, dans l'abaissement et dans une entière confiance en Dieu malgré l'état de ruine, et en s'identifiant avec, par la foi et par les affections du cœur, s'identifiant avec le résidu que Dieu reconnaît, qu'il peut, et seulement là, trouver la bénédiction. J'aimerais ici lire ce qu'un frère du tout début nous a laissé, le frère Wigram, qu'il a écrit en 1854, le témoignage de notre temps est l'expression de la fidélité de la grâce de Dieu par le moyen de ceux qui ressentent la ruine et en sont humiliés. Dans cette position, les frères étaient bénis de Dieu. Ils ont trop pensé à leur position, à leur témoignage. Ils en sont fiers. Cette parole est dure. Et de deux choses l'une, ou ils seront mis de côté et leur témoignage donné à d'autres, ou ils seront humiliés, voilà le grand mot, afin de pouvoir retenir le témoignage. L'humiliation peut avoir lieu par l'action de la parole de Dieu sur leur cœur. Que Dieu leur accorde la grâce nécessaire. Mais s'ils ne s'humilient pas, ils seront humiliés par la main puissante de Dieu. Le Seigneur sera fidèle. Que les frères en soient persuadés, qu'ils nous accordent la grâce de nous juger nous-mêmes, afin que nous ne le soyons pas par lui, qu'il nous trouve à son retour, à son passage, si nous pourrons dire, en pensant à Élisée, rempli de sa grâce et fidèle à toute sa vérité. Il nous semble qu'il y a là quelque chose, il y a plus de 140 ans, qui parle à nos cœurs et qui rejoint le même exercice qui était celui du cœur de cette femme tsunamite au milieu de son peuple.